Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous vous apprêtez à écouter l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel présenté par Eric et Alain, en partenariat avec l'Observatoire astronomique d'Agnan. Eric, eh bien, le bonjour.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Alors ce mois-ci, nous allons innover un petit peu et on va changer un petit peu de thématique. On va parler toujours d'astronomie, hein, ne vous inquiétez pas, mais on va s'attarder sur Orion. Alors on parlera dans un premier temps de la mythologie hein, autour d'Orion. Et puis Eric, après tu nous parleras des aspects, on va dire, un petit peu plus astronomiques, hein, notamment la constellation et ce qu'on peut y trouver.
Voilà, et puis on va repartir un petit peu dans le temps, dans le passé, pour vous parler du découvreur de la fameuse nébuleuse d'Orion.
Voilà, et bien écoute, avec plaisir. Donc, comme je le disais, on a tous hein, probablement remarqué cette constellation magnifique hein, dans le ciel d'hiver, cette imposante constellation qui se repère notamment à ces fameuses trois étoiles parfaitement alignées qui forment la ceinture d'Orion, on en reparlera. Et donc, on parle évidemment d'Orion. Et avant de nous attarder sur la constellation en elle-même, et bien, comme je l'ai dit, on va parler un petit peu de la légende qui tourne autour de ce chasseur. Une légende qui oscille entre amour, orgueil et tragédie. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble quand même un petit peu important de définir ce qu'est un mythe. Alors les mythes, ce sont des récits anciens qui, à l'époque, hein, étaient transmis essentiellement oralement. Et plus tard, évidemment, ils ont été réécrits et transmis de manière, écrite par la suite. Et ces récits, ils ont pour vocation d'expliquer le monde, d'expliquer ses origines, les situations de la vie courante, ses mystères, etc. Et dans la forme, ces récits mettent en scène des dieux, des héros, mais aussi des créatures fantastiques, évidemment. Et la plupart de ces récits, hein, notamment de la mythologie grecque, sont assez fascinants parce qu'ils ont réussi à traverser les siècles, hein, ce qui n'est pas le cas de toutes les mythologies. Et dans le contenu, comme je le disais, on retrouve hein, principalement de grands exploits, de la passion et puis aussi des châtiments divins. Et Orion ne fera pas exception à la règle. Alors, comme tous les mythes, et comme je le disais, vu qu'ils ont été transmis oralement initialement, il n'y a pas un mythe, mais il y a des mythes. Il y a plusieurs versions. Souvent, les versions se mélangent plus ou moins. Et ça, c'est souvent lié à la manière dont ils ont été transmis au fil du temps. Souvent, il y a eu un petit peu des mélanges entre les différentes versions. Donc, pour les auditeurs, hein, férus de mythologie, ne vous étonnez pas si j'ai une version ou des versions qui sont un petit peu différentes de celles que vous auriez pu déjà entendre par le passé. Il faut savoir que c'est tout à fait normal, hein, y a plusieurs mélanges à ce niveau-là. Et donc Orion, pour faire simple, certains le voient comme un héros, et puis d'autres le voient tout simplement comme un prétentieux qui a été puni pour son arrogance.
C'est une question de point de vue.
Voilà, tout à fait. Alors Orion, qui est Orion? Orion, c'est le fils d'Irié et il n'a pas de mère. La raison, c'est tout simplement que Irié ne pouvait pas avoir d'enfant. Et donc, pour résoudre le problème, il a appelé des dieux, en l'occurrence Zeus, le dieu suprême, et Poséidon, le dieu de la mer. Et pour le remercier, ceux-ci lui ont fait engendrer un fils, Orion. Et Poséidon lui accordera même un don assez unique, celui de pouvoir marcher sur les flots. Il faut quand même reconnaître qu'ils sont vachement forts, hein, ces dieux grecs.
Ah oui.
Donc Orion, c'est un homme mortel, puisqu'il est le fils d'un mortel, même si ce sont des dieux hein, qui l'ont engendré. Et donc Orion, il est connu parce qu'il est surtout un chasseur doté d'une force exceptionnelle et d'une beauté exceptionnelle aussi. Il faut bien le remarquer. Et donc, Orion est un personnage assez complexe hein, dans la mythologie grecque. Là encore, plusieurs variantes hein, se disputent, mais ça reste quand même un personnage souvent arrogant, passionné, et on va le voir avec une fin assez tragique. Et donc, parmi hein, toutes les variantes du mythe d'Orion, eh bien, on va s'attarder sur l'un des plus connus. Et donc, pour ça, eh bien, on va se rendre sur l'île de Chios, où Orion s'était rendu. Et en se rendant à l'île de Chios, eh bien, Orion va tomber sous le charme de la fille du roi, une princesse nommée Mérope. Et évidemment, il veut l'épouser, forcément. Sauf que le roi, lui, Eunopion, hein, le roi Eunopion, n'est pas vraiment du même avis. Mais il va quand même laisser une chance à Orion. Et il va lui promettre sa fille en mariage à la seule condition, c'est de débarrasser son île de toutes les grandes bêtes fauves. Et Eunopion fait cela parce qu'il sait très bien que la tâche est impossible, évidemment. Donc Orion se met à arpenter l'île, en long, en large et en travers. Il chasse toutes les bêtes féroces qu'il anéantira une à une. Mais une fois sa tâche accomplie, Eunopion refusera de remplir sa promesse, sous prétexte qu'il resterait encore quelques bêtes sauvages sur l'île. Exaspéré et surtout découragé, Orion fut chassé de l'île après avoir tenté de violenter Mérope. Pour le punir, Eunopion l'aveugla et l'abandonna sur le rivage. Eunopion n'eut d'autre choix alors que de marcher droit devant lui à travers la mer jusqu'à l'île de Lemnos. Oui, je vous rappelle que Poséidon lui avait donné ce don hein, de pouvoir marcher sur les flots.
Ce qui est très pratique dans son cas.
Oui, ça, c'est sûr. Et donc, c'est durant cette marche hein, vers l'île de Lemnos qu'il va miraculeusement recouvrer la vue. Donc voilà pour l'un des mythes d'Orion. Et on va maintenant s'attarder sur le, ou plutôt les mythes, de la mort d'Orion. Alors, l'un des premiers mythes, eh bien, c'est que notre ami Orion était quand même assez furieux contre le roi Eunopion et il décide de retourner sur l'île de Chios pour se venger. Mais Artémis, la déesse de la chasse et de la lune, qui était devenue son amie, lui demanda d'oublier sa vengeance et de continuer à chasser avec elle. Le frère d'Artémis, Apollon, qui avait quelques craintes pour sa sœur, est un peu jaloux. Les rumeurs disent qu'il trouvait qu'ils étaient proches, trop proches d'ailleurs, de son avis. Et il va donc envoyer un monstrueux scorpion à sa poursuite. Orion tenta de le combattre, mais il n'y parvint pas. Et pour échapper au scorpion, il s'éloigna en mer, qui formait alors une barricade naturelle. Apollon désigna donc à Artémis, sa sœur, la cible du géant, en lui disant que c'était un monstre qu'il fallait évidemment tuer parce qu'il était dangereux pour l'île. Et donc, Artémis ne put reconnaître Orion, trop loin du rivage, et excellente archère, elle ne manque jamais sa cible, elle ne manque jamais son coup, et tue Orion d'une traite. Quand elle découvre la vérité, Artémis est dévastée, et pour honorer la mémoire d'Orion, elle supplie Zeus de placer Orion et ses fidèles chiens, Sirius et Procyon, parmi les étoiles. Il accéda à sa demande, et c'est ainsi qu'il devient la célèbre constellation que nous observons encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, juste à côté d'Orion, dans le ciel, se trouve l'étoile Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, qui permet de repérer la constellation du Grand Chien. Et juste au-dessus de cette constellation se trouve l'étoile Procyon, dans la constellation du Petit Chien. Alors, une autre version existe de la mort d'Orion, qui elle aussi est assez largement connue et diffusée. C'est que Orion et Artémis, qui avaient l'habitude de chasser ensemble, eh bien un jour, Orion est pris pour Artémis, eh bien va essayer de l'embrasser. Furieuse et indignée, elle fit apparaître un scorpion et lui ordonna de piquer le géant. La lutte est féroce entre le chasseur et le scorpion, mais le scorpion va quand même finir par piquer Orion, qui va succomber. En voyant son compagnon de chasse mourir, Artémis est ému et demande à Zeus de transformer Orion et ses chiens en constellation et demanda le même sort au scorpion qu'il avait fidèlement servi. Zeus accepta la demande et plaça le scorpion à l'opposé d'Orion pour qu'ils ne se croisent jamais dans le ciel, Autrement dit, quand l'une des constellations se lève, l'autre disparaît. Et donc on voit ainsi que Orion est quand même l'archétype du héros ou du chasseur tragique, puni pour son arrogance. Et son destin illustre parfaitement la grande lignée des récits antiques, à la fois un mélange de bravoure, de passion et de châtiment divin. Alors si le mythe d'Orion nous vient de la Grèce antique, il faut savoir que cette constellation, elle a aussi inspiré d'autres grandes civilisations, à commencer par la civilisation égyptienne, puisque pour les Égyptiens, Orion était associé à Osiris, le dieu de la mort et de la résurrection. Et ce n'est pas un hasard, puisque Osiris était l'un des dieux les plus importants de leur mythologie. Et il voyait dans la constellation d'Orion l'incarnation de son pouvoir céleste. On retrouve d'ailleurs cette association dans l'association des pyramides de Gizeh, puisque certains chercheurs pensent que ces pyramides ont été construites pour refléter la position des trois étoiles de la ceinture d'Orion, une manière selon les Égyptiens d'aider l'âme du pharaon à rejoindre Osiris dans l'au-delà. Et une autre civilisation a aussi, pour moi, beaucoup de sens, notamment aussi, on le verra sur la symbolique que ça peut représenter, notamment par rapport à l'astronomie, c'est chez les Maliens, de l'autre côté de l'Atlantique, puisque Orion occupait une place centrale. Ils appelaient d'ailleurs la grande nébuleuse d'Orion le feu du créateur. Je vous rappelle que la nébuleuse d'Orion, mais t'en reparlera probablement, peut s'observer à l'œil nu. Et donc pour eux, cette région du ciel représentait l'origine du monde, un lieu sacré, le lieu d'où tout est né. Et dans le Popol Vuh, le texte sacré des Mayas, on retrouve des références à un foyer cosmique lié à Orion, qui symbolise l'endroit où les dieux façonnent l'univers. C'est quand même assez étonnant, puisqu'on sait que ce type de nébuleuses sont justement les nébuleuses qui donnent naissance aux étoiles. Si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, vous écoutez bien l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel présenté par Alain et Eric en partenariat avec l'Observatoire astronomique d'Anian. Alors nous venons de parler du mythe d'Orion et on va s'attarder maintenant sur la constellation en elle-même. Et bien du coup Eric, je vais te laisser la parole, je crois que tu as beaucoup de choses à nous dire là-dessus.
Oui, j'ai quelques petites informations à donner. En Orion, tu l'as dit, les Mayas avaient noté la création du monde dans la grande nébuleuse. On va en reparler parce qu'effectivement c'est un endroit où maintenant on sait très bien qu'il y a de l'activité créative au niveau des étoiles, et pas que, mais j'en reparlerai un petit peu en détail. Et Orion, on va en parler aussi, notamment de la Grande Nébuleuse, par son découvreur, qui est un astronome français. Donc ça vaut le coup de le dire, puisqu'on parle beaucoup des grands découvreurs de l'astronomie qui sont étrangers, comme les William Herschel et autres. Mais on a très très tôt, à l'époque de Galilée d'ailleurs, puisque c'était un contemporain de Galilée, un astronome français qui a fait cette belle découverte. On en reparlera un petit peu après. Alors la nébuleuse d'Orion, on la reconnaît très bien dans le ciel, et notamment par ces trois fameuses étoiles de la ceinture qui sont très très repérables. Et on sait qu'il y a quand même pas mal d'objets à regarder. Alors on a la fameuse Bételgeuse, la belle étoile qui est en fin de vie, dont on attend peut-être un jour la transformation en supernova, pourquoi pas. Mais ça, l'avenir nous le dira et on ne le saura que plus tard quand on verra l'éclat de cette explosion. Mais il y a surtout des objets du ciel profond. Alors, je vais vous les citer parce que la plupart, il faut des instruments relativement puissants pour aller les voir. et des conditions d'observation assez favorables, hein, un beau ciel, etc. C'est notamment le cas de la nébuleuse de la tête de cheval, qui a été révélée au grand public par Hubble, hein, par les photos du télescope Hubble. Celle-là, il faut être bien équipé avec du diamètre déjà assez conséquent pour pouvoir aller l'observer. Alors, là, je ne parlerai pas des techniques de photographie, parce que moi, j'en fais pas, donc je serais très mal placé pour en parler, mais pour l'observation, il faut un télescope puissant. C'est le cas aussi de la nébuleuse de la Flamme, qui, elle, est un petit peu plus loin et un peu plus diffuse, donc on a un peu plus de difficultés à les voir. Mais je vais surtout m'attarder sur la grande nébuleuse d'Orion. Alors, la grande nébuleuse d'Orion... elle a été effectivement repérée depuis très longtemps, hein, par les Mayas, par toutes les civilisations de l'astronomie, ils en parlent, parce qu'elle est visible à l'œil nu. Donc ça, c'est déjà intéressant, vous pouvez le soir sortir. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué, parce qu'on a des petites choses qui nous empêchent de les voir, hein, ça s'appelle des nuages, relativement humides, hein, mais on espère que le ciel va se découvrir. On a encore quelques semaines apprécier Orion. Et sous la ceinture, sous cette fameuse ceinture, ces trois belles étoiles alignées, un petit peu sur la gauche et en bas, on voit une espèce de tache, une petite tache un peu laiteuse, blanchâtre. Eh bien, c'est la fameuse nébuleuse d'Orion, qui est éclairée par trois étoiles que l'on appelle l'amas du trapèze. Et c'est d'ailleurs cet amas qui a été repéré le premier. Alors, j'en viens à qui l'a repéré. On sait que Galilée, dans ses observations, avait remarqué effectivement l'amas du trapèze. Mais il n'avait pas parlé de la nébuleuse parce que, en fait, avec l'instrument dont il disposait, il n'avait pas bien remarqué qu'il y avait des gaz ou qu'il y avait des choses un petit peu nébuleuses autour de cet amas. Et c'est un Français, Nicolas-Claude Péresque, qui va la découvrir. Alors, ça c'est bien sûr, ça s'est pas fait comme ça. Il a d'abord fallu qu'il obtienne un instrument. Alors, Nicolas Péresque, c'est quelqu'un qui a poursuivi des études, qui, comme on faisait à l'époque, a fait pas mal de voyages à l'étranger, et notamment en Italie, puisque à l'époque, quelqu'un qui voulait faire partie du monde éduqué se devait de faire des grands voyages, notamment en Italie, puisque c'était le lieu où tout s'apprenait, notamment l'art, la culture, la philosophie, et c'était un petit peu ses dadas. Et il a fait connaissance d'un grand astronome, Galilée. Il est resté en contact et Galilée, dans un courrier, lui apprend que il avait construit une lunette d'après des plans qu'il avait reçus de Hollande et que c'était très bien pour faire de l'observation et qu'il lui conseillait de fabriquer également. Alors, certaines versions disent qu'il aurait même envoyé à Péresque un exemplaire de sa lunette. Alors, Péresque était très intéressé, bien sûr, par l'astronomie, entre autres, hein, puisque ça a été quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup de choses dans plein de domaines. Mais il trouve que la lunette, elle n'est pas suffisamment performante, donc il va l'améliorer, notamment avec quelqu'un qu'on connaît bien aussi dans le Sud, hein, qui est Pierre Gassendi, qui est un grand ami. Et ils vont améliorer cette lunette et commencer des observations. Alors, ils commencent, comme Galilée, par la Lune. Donc, ils font pas mal d'observations de la Lune avec des beaux croquis qui seront transformés en gravures très précises. Et il va remarquer, effectivement, en hiver, cette constellation d'Orion. Et, bien sûr, il va pointer sa lunette sur Orion. Et c'est là qu'il va découvrir non seulement l'amas du trapèze, mais également la nébuleuse. Il va la noter, il va l'observer plusieurs soirs de suite et publier sa découverte qui lui sera attribuée. Il l'a découverte en 1610. Donc ça commence à dater, hein. Donc c'est pas d'aujourd'hui, vous voyez. Et il va continuer à faire des observations et il va non seulement découvrir la nébuleuse d'Orion, mais également participer à compléter les observations des satellites de Jupiter, hein, qu'avait découvert Galilée. Il découvre aussi un autre amas très célèbre. Alors, c'est pas dans la nébuleuse d'Orion, celui-là, il est dans le Cancer, c'est le fameux M44, l'amas de la Crèche, qui, l'année suivante, en 1611, va la découvrir. Alors, petit aparté, par rapport à l'astronomie, encore que ça pourrait y avoir trait, Peiresc était aussi très intéressé par la géographie. Et dans la géographie, il étudiait les questions de longitude. Et il a profité d'une éclipse de lune en 1635 pour faire des mesures, justement, sur des longitudes en différents points autour de la Méditerranée. Et donc, comme il était professeur, il a réparti pas mal de ses élèves autour de la Méditerranée. Alors bien sûr, ils sont partis bien avant, puisqu'à cette époque-là, on n'avait pas encore d'avion ni de train pour se rendre sur place. Il a réparti plusieurs observatoires et ses élèves, au moment de l'éclipse de lune, ont noté tous les détails pour relever les longitudes. Et cette étude a fait une pour conséquence, en fait, de déterminer avec exactitude le tracé et le contour de notre Méditerranée. Puisqu'avant, elle avait un certain contour, et à partir de ces calculs, eh ben, la Méditerranée a réduit d'à peu près 1000 km de longueur pour revenir à des dimensions que l'on connaît aujourd'hui. Donc vous voyez, l'astronomie amène un petit peu à tout. Donc voilà. Et cette éclipse a permis donc aux navigateurs de pouvoir, en se servant des étoiles et notamment d'Orion, naviguer sans trop d'erreurs. Alors, la nébuleuse d'Orion, on l'a dit, c'est un endroit très particulier parce que c'est un domaine de gaz, en fait, où se forment des étoiles. Et effectivement, les Mayas avaient raison. Il y avait de la création. Les étoiles se forment dans ce gaz, puisque c'est les restants d'une supernova avec lesquelles les étoiles commencent à naître. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement des étoiles naissent, c'est ce qui donne d'ailleurs l'éclat à la nébuleuse et qui nous permet de la voir à l'œil nu. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a découvert que c'était également un endroit où on avait trouvé des prolites. Alors, c'est un terme un petit peu barbare, hein, qui est en fait un disque de matière, de gaz et de poussière qui tourne autour de ces étoiles, de ces jeunes étoiles, et qui pourrait être des disques protoplanétaires, c'est-à-dire des disques qui pourraient servir à former des planètes autour de ces étoiles. Donc, ça intéresse énormément les chercheurs, puisque on cherche des exoplanètes, hein, on cherche aussi à savoir comment s'est véritablement formé notre système solaire. Et on arrive là avec la nébuleuse d'Orion, qui est très proche de notre position, hein, de la Terre, et qui permet justement des études très détaillées, de pousser un peu plus avant les études justement sur ces gaz qui pourraient servir, ces gaz et ces matières, hein, puisqu'il n'y a pas que des gaz, il y a des poussières également, qui pourraient engendrer des planètes autour des étoiles. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le découvreur de la nébuleuse d'Orion et la nébuleuse. Alors, profitez-en, puisque pendant quelques jours, on a encore la chance de la voir et puis de l'apprécier.
Oui, on va du coup peut-être passer justement à ce qu'on va pouvoir voir dans le ciel. Donc, la nouvelle lune, hein, elle aura lieu le 28 février, et ce sera la meilleure période pour observer le ciel sans être gêné par celle-ci. Et la pleine lune se produira le 14 mars, j'en reparlerai un petit peu plus tard, puisqu'il va se passer quelque chose ce jour-là. Et sinon, je vais revenir quand même, parce que là, les médias maintenant s'emballent de plus en plus sur le fait qu'à la fin du mois, toutes les planètes seront visibles. Et j'ai envie de dire, eh bien non. Il n'y a pas... Alors... Certes, il y a un alignement des planètes, hein, puisque les planètes sont effectivement regroupées entre elles. Et donc, c'est une grande période hein, planétaire qui bat toujours son plein, et on va faire le point, puisque effectivement, en plus hein, de l'alignement qui va eu fin janvier, eh bien Mercure, ce mois-ci, à la fin du mois, va entamer sa meilleure période de visibilité de l'année pour ce qui est du soir. Mais il faudra un horizon ouest très dégagé, sans brume et surtout sans nuages, pour espérer l'observer. D'ailleurs, il faudrait idéalement vous aider hein, de jumelles hein, pour vous faciliter la tâche. Puis ensuite, vous pourrez la trouver, je dirais, à l'œil nu. Elle se situe juste en dessous de, en dessous de Vénus, hein, à l'aplomb de Vénus. Vénus, d'ailleurs, hein, bah, elle s'observe toujours côté ouest, elle est toujours magnifique, mais profitez-en bien parce que sa belle période d'observation se termine et il ne sera plus possible de l'observer à partir de la mi-mars. Et puisqu'on parle de Mars, eh bien, continuons avec Mars et Jupiter qui seront toujours superbes hein, pendant une grande partie de la nuit. Uranus également sera visible dans le ciel, mais uniquement avec des instruments. Et concernant Saturne et Neptune, eh bien, elles ne seront plus visibles en Europe, hein, et ce depuis le début février. Et donc, même si elles sont présentes dans le ciel crépusculaire, celui-ci est encore trop lumineux pour observer ces planètes. Et quand il fera suffisamment sombre, eh bien, elles auront déjà sombré sous l'horizon. Donc, à la fin du mois, il y aura effectivement hein, de jolies observations à faire au niveau planète, hein, et notamment Mars, Vénus et Jupiter qui seront bien visibles. Mercure aussi, comme je l'ai dit, avec des conditions, on va dire, un petit peu moins bonnes hein, que Vénus, puisqu'elle restera basse sur l'horizon. Et quant à Saturne, Uranus et Neptune, eh bien, à l'œil nu, oubliez-les, tout simplement. Alors le 1er mars, hein, quand même, repérez Vénus et Mercure, puisqu'elles seront séparées d'un minuscule croissant lunaire, donc ça fait un très beau rapprochement dans le ciel. Et on va s'attarder sur le 14 mars, puisque la pleine lune se couchera en entrant dans l'ombre de la Terre, c'est ce qu'on appelle une éclipse totale de lune. Elle est cette fois-ci centrée sur le continent nord-américain. Et dans l'Hérault, le phénomène ne sera que partiellement visible, puisque nous verrons que l'entrée dans l'ombre. Et donc, le phénomène débutera à 5h du matin. L'entrée dans l'ombre de la Terre se fait à 6h10 du matin. Et elle se couchera à 7h du matin. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les grands phénomènes observables ce mois-ci. Et donc cette émission touche à sa fin. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Merci à toutes les auditrices et les auditeurs et on se retrouve le lundi 17 mars.